Bienvenue dans cette édition spéciale de L'Accent des Autres, le rendez-vous hebdomadaire des rédactions des médias francophones publics, une édition des fêtes consacrée au prix du journalisme des MFP qui a couronné cette année France Info. Nous retrouverons la lauréate Gaëlle Joly après la diffusion d'un extrait de son sujet. L'urgentiste Nicolas Poirot lui a fourni les enregistrements des appels au SAMU durant la terrible soirée du 13 novembre 2015 quand Paris fut la cible des plus sanglants attentats de son histoire. Et puis nous entendrons encore un extrait du témoignage de Stéphane proposé par la RTBF. Stéphane, un compagnon violent qui tente de s'en sortir, ou comment inverser le regard pour s'intéresser au bourreau. Deux des meilleurs reportages soumis cette année au prix du journalisme des médias francophones publics. Un prix que vous décernez, vous, notre public. Au début du mois de décembre, vous étiez 20 en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et puis aussi dans le reste de la francophonie grâce à Radio France Internationale. 100 auditrices et auditeurs au total donc qui ont choisi leur reportage préféré parmi les propositions des 5 radios francophones publiques. Et c'est Gaëlle Joly de France Info qui a eu votre préférence. À l'approche du procès des attentats du 13 novembre 2015, elle a bénéficié d'une source inédite en lien avec le massacre du Bataclan et des autres attentats de ce samedi soir, l'enregistrement des appels qui ont transité par la plateforme du SAMU de Paris. Témoins, victimes, services de secours, pompiers, police, hôpitaux, toutes ces voix racontent leur 13 novembre. L'urgentiste Nicolas Poirot est à la régulation, les hôpitaux sont déjà débordés quand survient l'attaque du Bataclan. Voici un extrait avant de retrouver Gaëlle Joly pour nous expliquer sa démarche.
21h40, les premiers tirs éclatent aux abords de la salle de concert. Un autre commando de 3 terroristes entre dans le Bataclan. Les appels redoublent.
C'est chez moi, j'ai vu le mec qui a allumé tout le monde ici. Il a allumé tout le monde, j'ai vu de mes yeux. Ici, à la calache.
Nous vous informons que notre conversation est enregistrée.
Le SAMU de Paris, bonjour.
Oui, bonjour, on vient de prendre des balles à côté du Bataclan. Mon mari est blessé, moi aussi. Je ne sais pas l'adresse, je suis blessée, je ne suis pas bien et... Boulevard Voltaire, à Paris.
On n'est vraiment pas bien, je vais bientôt...
Les secours sont déjà partis, madame.
Oui, okay, merci. Très bien.
Arrête tes gyros!
Les secours sont là, mais les équipes du SAMU, sous les tirs des terroristes, n'arrivent pas à approcher.
Allô.
Moi, je suis au côté de la rue Amelot, là où ça tire encore. Dans le
bah putain, mais alors.
Ils sont toujours pas rentrés dedans. Moi, je suis à l'écart. Hein. Je suis protégée. Je suis pas.
Non, non, mais d'accord. Écoute,
pour
tu ne bouges
pas.
Ma chérie. Tu ne bouges pas. T'es prête à te barrer. Tu restes là où tu es. D'accord.
À 23h14, on évoque un premier bilan au Bataclan.
Allô.
Ouais.
Faut que je fasse le tour un petit peu. T'en es où au Bataclan?
J'ai rien parce que moi, je suis bloquée sur le boulevard des Filles du Calvaire avec les filles qui me disent qu'ils ne savent pas si c'est sécurisé. Mais j'ai en même temps l'AR qui est avec moi, qui a des infos par sa coordination et qui me dit qu'ils auraient 80 morts au Bataclan. Et que
ils auraient combien?
80 morts au Bataclan avec un mec avec des explosifs. Et...
Non, ben attends. Ok.
Message urgent à l'intention des ambulanciers. L'ensemble des ambulanciers sont attendus dans la cour. Urgent, merci.
Nicolas Poirot, qui gérait la cellule de crise, quitte son poste pour aller aider les équipes sur le terrain.
On est parti avec la deuxième vague, où là, on a été à plusieurs équipes dans les camions. Donc on était un médecin, une infirmière, un sac à dos, et puis on montait dans les camions, et puis on partait prendre en charge les gens.
Allô, madame?
Oui.
Au niveau du SAMU, on est au courant. Hein.
Vous prévenez les flics.
Ils sont au courant, madame.
Parce que là, il est à l'intérieur, lui, il est encore vivant et tout ça, et il entend que tout le monde est en train de se faire tirer dessus, il s'est planqué dans les toilettes, il faut l'aider. Hein.
D'accord. Voilà, ils vont faire le nécessaire, je ne peux pas vous en dire plus, madame.
D'accord.
Au Bataclan, l'assaut est donné à minuit 20, les derniers blessés sont évacués.
Ouais, salut, c'est Nicolas Poirot, quelqu'un essaie de me joindre?
Ouais, la consigne, c'est que tu rentres à la base?
Là, on rentre à la base, moi ou tout le monde?
Lui surtout.
Lui surtout, bah j'arrive, moi.
Voilà, toi. Pour la régulation. Ok.
Super.
Je t'en prie.
À 2h du matin, ou 2h30 du matin, comme j'étais de garde, je remonte en régulation, et quasiment tous les gens sont partis, la salle de crise est fermée, et on se retrouve les mêmes qu'au début, et il n'y a plus d'appel. Vous savez, nous, on fait un métier où on voit des choses assez terribles, donc là, c'était au-delà de toute... j'ai jamais vu autant de morts de ma vie au même endroit, c'était abominable. Moi, j'ai pas de souvenir de cris d'affolement, de panique. Les secours, tout le monde a donné le meilleur de soi-même pour faire face à cette espèce de massacre monstrueux qui s'est passé en plein Paris. Quoi.
Pour vous, cette soirée du 13 novembre, elle représente quoi dans votre vie?
C'est la chose la plus compliquée, la plus impliquante. C'est 20 ans de réflexion de mon métier. Enfin, j'ai fait mon métier ce soir-là.
Gaëlle Joly, vous avez écouté ces 13 heures d'enregistrement. Est-ce qu'on en sort indemne ?
Pas du tout. J'ai dû les écouter assez vite parce que je les ai eus lundi matin et je faisais l'interview de celui qui me les a donnés le mercredi et il fallait absolument que je les écoute. Je les ai écoutés pendant 6 heures le lundi, 6 heures le mardi et j'ai pas pu m'arrêter en fait. C'était un tunnel. Je suis rentrée dans un tunnel. À la fois c'était horrible et à la fois c'était fascinant cette matière historique. Je découvrais des choses incroyables comme le fait qu'il parle sur les musiques d'attente. Alors il y a cette musique très douce et puis derrière il y a un attentat, des gens qui pleurent, qui perdent des gens. Il y a tous ces moments-là qui étaient vraiment du moment brut. Quand on est en reportage, c'était la réalité. Et j'entendais ces moments un peu volés presque. Je pensais entendre surtout des témoins. En fait, je me suis mis à entendre plein de conversations un peu privées avec la cellule de la préfecture de police de Paris, avec la direction des hôpitaux de Paris. Je suis rentrée dans un tunnel et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'arrêter. Et en même temps, dans ma tête, ça a été très difficile.
Qu'est-ce qui a poussé finalement le docteur Nicolas Poirot à vous confier ces documents ? Qu'est-ce qu'il vous a dit en vous les confiant ?
En fait, c'est vrai que je les ai pas demandé parce que je savais pas que ça existait, mais lui, je crois qu'avec l'approche du procès, il s'est dit que c'était dommage que ces 13 heures de bande qui existaient dans son ordinateur, elles meurent en fait. Et je crois qu'il m'a parlé de son histoire à lui. Et il m'a parlé de l'histoire collective et il voulait qu'on prenne en charge ça pour en faire une matière d'archives pour l'histoire collective. Et je crois qu'il avait vraiment sincèrement pas envie que ça meure. Il voulait montrer ce qui s'était passé ce soir-là, comment les services d'urgence avaient géré, avaient essayé de faire de leur mieux pour ça.
Donc ça sort justement du cadre médical, hein, parce qu'effectivement, il les utilise avec des jeunes urgentistes.
Exactement, il fait des formations à travers toute la France. Il en a fait toute l'année des attentats 2015. On en a eu beaucoup en France et notamment à Nice en 2016. Et juste avant, il était descendu aux urgences pour leur faire écouter ça, pour leur expliquer comment gérer un attentat. Et malheureusement, quelques jours après, c'est ce qui s'est passé.
Comment est-ce que vous l'avez senti, vous, ce médecin, plus de 5 ans après cette terrible nuit ? Il est toujours éprouvé ?
Alors c'était probablement la première fois qu'il en parlait depuis longtemps. Il a un caractère très fort, on sent que c'est un militaire, donc on a du mal à briser la glace, mais on sent qu'il a été très marqué, notamment il raconte comment il est rentré dans la salle du Bataclan, alors que finalement il avait rien à y faire parce que tout le monde était mort dedans. Mais pour essayer de réaliser ce qui s'était passé, voilà, il est rentré dans cette salle de spectacle, et ce qu'il a vu, il l'a emporté avec lui. Et il raconte que 6 mois après les attentats, il a eu un énorme coup au moral, ça a été dur, et le fait d'utiliser ses bandes et de faire des formations à travers toute la France, ça l'a aidé à dépasser tout ça, à dépasser ce traumatisme, parce qu'il a été heurté lui aussi, vraiment touché par ça.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Safia Kessas et Mathieu Neupré de la RTBF ont recueilli le témoignage de Stéphane. Il raconte sa descente aux enfers à l'époque où il battait sa compagne. Il raconte aussi comment il s'en est sorti grâce à l'encadrement de sa thérapeute au sein de l'association Praxis à Liège en Belgique. Comment devient-on un homme violent ? Comment se départir de cette violence ? Quelle est la responsabilité de la société patriarcale dans ce phénomène de société que sont les violences faites aux femmes ? De questions posées par le témoignage de Stéphane. Écoutez cet extrait.
La gradation a été, elle a été présente parce que je pense que tu ne commences pas une relation dans l'idée de frapper quelqu'un, surtout qu'elle avait 16 ans, j'en avais 21, donc c'était notre première vraie relation entre guillemets. Et elle a commencé comme des disputes, rien du tout, où je la fais pleurer, où on est malheureux, on se réconcilie. Puis la bousculer, puis lui mettre une baffe, et puis ça s'est terminé avec des poings ou des coups de pied. Ça allait vraiment loin et voilà, je l'ai déjà mis dans un coin. Elle était en larmes avec la tête en sang, complètement recroquevillée sur elle-même, par peur et par pour essayer de se protéger. Et voilà, et je continue. Et au lieu d'arrêter, je dis que c'est de sa faute. Je me dis que regarde ce que tu me fais faire et ainsi de suite. Donc je n'assume même pas mes actes, je n'assume même pas ce que je viens de faire. Elle essaye de se relever et voilà, mais le moindre petit truc peut faire que je lui remets une trempe et que ça redégénère quoi. Donc voilà, la voir en sang ne suffit pas à calmer mes nerfs.
C'est donc grâce au suivi des groupes de parole et grâce à sa thérapeute que Stéphane a commencé à décoder un schéma d'emprise qu'il avait imposé à sa compagne. Cependant, le processus de prise de conscience a pris du temps. Il a fallu creuser aussi parfois dans un passé douloureux.
Ma mère a eu des soucis avec, avec mon père, justement, de violence conjugale. J'ai cru à un moment que c'était héréditaire parce que, ben voilà, mon père frappait ma mère, c'est normal que moi je le fasse. Ça met quand même une grosse claque, ça fait quand même très mal de se dire qu'en gros, on est le même connard que son père. J'ai clairement eu la pression de le reproduire, c'est pour ça que se poser la question, savoir si c'est héréditaire, ou est-ce que, même si j'arrive à me contrôler pendant X temps, est-ce qu'à un moment ou un autre, ça va redémarrer? Est-ce que si je quitte cette fille-là, est-ce que ça va redémarrer avec une autre?
Depuis qu'il a fait ce groupe, il n'a plus agi de violence physique grave, ou en tout cas il ne m'en a pas relaté. On l'a vu évoluer et prendre conscience et pouvoir relire les choses avec un autre angle de vue qui est celui qu'on leur propose, qui est celui de la responsabilité individuelle. Quelle est sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé, puisque Praxis ne veut jamais se contenter d'une explication. Si elle n'avait pas fait ceci, je n'aurais pas fait cela.
Il y a une évolution, un truc de fou, franchement. Mais voilà, il y a encore du travail, et je pense que ce travail va durer toute ma vie, ou tout le reste de ma vie, en tout cas. Et c'est fatigant, mais d'un autre côté, c'est valorisant, parce que quand on voit comment l'autre se sent, quand on est bien avec, et quand, ben voilà, ça fait plus plaisir que de se retrouver comme ces jours-ci où on est un peu en froid pour une phrase complètement débile sortie sans raison. Voilà, je préfère passer des moments quand on est bien que...
La phrase débile, c'est « je vais te quitter ».
Voilà.
C'est pas une phrase débile, ça, Stéphane.
Si, c'est une phrase très débile quand on ne la pense pas.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Safia Kessas de la Radio-Télévision belge, un témoignage qui clôt ces deux éditions spéciales consacrées au prix du journalisme. Dès la semaine prochaine, nous retrouvons les chroniqueurs de la RTBF, de Radio France, de Radio France Internationale, de la RTS et de Radio-Canada sous la houlette d'Olivier Nederland.